Radio Okapi. Le journal Gisèle Cage.
Bonjour à toutes et à tous. L'heure est venue de faire le point sur l'essentiel de l'actualité. Bienvenue dans votre journal sur Radio Okapi. Voici les principaux titres de l'actualité. Indemnisation collective, 2,5 millions de dollars pour reconstruire l'église après la guerre. Dans ce journal, nous revenons sur les bilans présentés par l'archidiocèse de Kisangani concernant l'utilisation des fonds du FRIVAO pour la réhabilitation des sites touchés par la guerre de 6 jours. Et en fin d'édition, notre invité, Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate, évêque auxiliaire, nous expliquera les enjeux de cette gestion et les perspectives pour les communautés. Une interview exclusive au micro de Jacques Mokonkole. Quand la pluie sème la faim au Nord Kivu, des pluies diluviennes ont anéanti les récoltes dans les territoires de Masisi, plongeant de milliers d'agriculteurs dans la détresse et aggravant une crise alimentaire déjà critique. La calbaire, l'usage croissant des filets prohibés par des pêcheurs clandestins menace l'écosystème et raréfie les poissons. Conséquence, les prix flambent et les commerçants se tournent vers l'Ouganda pour répondre à la demande locale. Ce premier numéro s'ouvre sur une information majeure. L'archidiocèse de Kisangani a présenté le bilan de l'utilisation du premier acompte de fonds reçu du FRIVAO destiné à l'indemnisation collective de l'église catholique de Kisangani. Cette communication a eu lieu samedi lors d'un point de presse organisé dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Selon le rapport de la commission ad hoc, l'enveloppe de 2,5 millions de dollars américains a été entièrement investi dans des travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures sur les sites de l'église catholique touchés par les conséquences de la guerre de 6 jours. Le point avec Jacques Mokonkole.
Ces fonds ont été gérés par une commission ad hoc mise en place par l'archevêque de Kisangani. Cette commission est présidée par son auxiliaire, Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate. Elle a mis à jour les entités impactées par la guerre avant de leur répartir les indemnisations. Selon les instructions reçues de l'ordinaire du lieu, cette commission a travaillé dans la transparence et la rigueur, déclare Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate.
La répartition des fonds, la passation de marchés, les suivis techniques et financiers, tout cela ont été faits suivant des critères objectifs.
L'archevêque de Kisangani, Mgr Marcel Outembitapa, félicite les membres de la commission pour leur disponibilité, leur savoir-faire et leur abnégation avant de livrer ses impressions.
À travers ces rapports, nous avons vu que le gros du travail a été réalisé à la satisfaction de la quasi-totalité des bénéficiaires et des fidèles de l'Église Famille de Dieu et qui est à Kisangani. Le travail n'est pas fini, bien sûr, mais le gros du travail est déjà fait.
Signalons que les travaux réalisés sur le terrain ont fait l'objet d'une projection vidéo au cours de cette rencontre. Jacques Mokonkole, Kisangani, Radio Okapi.
On poursuit avec l'actualité. Après, les religieux et les acteurs de la société civile annoncent leur engagement à participer activement à la campagne de vulgarisation des résolutions reconnaissant les génocides congolais. Cette décision a été prise samedi 29 novembre lors d'un échange avec le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, au Congo Fleuve Hôtel à Kinshasa. À cette occasion, Jonas Tshiombela, président de la nouvelle société civile congolaise, a réaffirmé la volonté des acteurs de mener une large sensibilisation autour de ces deux résolutions. Écoutons ses propos au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Et ici, avec cette reconnaissance par la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple et de la société civile africaine, ça ne peut pas nous laisser, nous, en marge. Ce qui fait que la société civile de la République démocratique du Congo pourrait aussi s'organiser pour quand même reconnaître le même génocide et donner le moyen de défense des populations congolaises par le gouvernement. Donc, nous sortons avec l'espoir que la justice est tentée de venir et qu'avec la détermination, comme nous l'avons dit, jusqu'au bout, nous irons. Nous avons communiqué pour saluer l'action du ministre qui nous a obtenu ce travail, mais au niveau de la société civile, je crois à l'issue de la table ronde qui se profile, nous irons dans les universités, dans les écoles, nous allons dans le marché pour que ça cesse d'être l'affaire des experts qui sont au niveau du ministère, ni au niveau du gouvernement, que ça devienne une propriété privée de la population congolaise. Dans toutes nos langues, nous allons vulgariser cela dans des émissions spécialisées, nous allons passer pour davantage expliciter et que la population s'approprie.
Ces deux résolutions ont été validées par la Commission africaine de droits de l'homme et de peuple ainsi que par la société civile africaine. En mémoire des victimes des massacres à l'est de la RDC, une exposition photographique intitulée « Survivre » s'est tenue samedi à Kinshasa pour rendre hommage aux victimes de violences perpétrées dans l'est du pays. Portée par un collectif de 7 jeunes photographes de Goma, cette initiative met en lumière les atrocités commises par l'AFC M23 à Goma et Bukavu, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Selon Gershom Ndebo, l'un des artistes, ces projets visent à créer un pont entre la réalité vécue dans l'Est et la capitale. Un reportage signé Josué Kefebe.
Cette exposition ayant suscité une discussion profonde entre les visiteurs, présente des clichés des chaînes de montagne, des victimes et des vies aériennes de Goma. Pour certains visiteurs, ces images ont été une révélation. Elles les ont plongées dans la situation de l'Est du pays.
C'est ce qu'on voit ici, on a vu nulle part dans nos chaînes, à la télé, nulle part.
Nous qui ne vivons pas dans ce coin-là, on nous emmène des images qui nous plongent en plein dans cette situation de guerre que vivent nos concitoyens du sud et nord Kivu.
Immerger le public dans la dure réalité des habitants de l'Est pour tisser un lien puissant avec Kinshasa, tel est le but de cette exposition. Une ambition que nous explique Gershom Ndebo, l'un des artistes participants.
C'était important de créer un point d'échange entre Goma et Kinshasa. Et attaquer jeunes, c'était super important de partager avec d'autres jeunes de Kinshasa. C'est pour cela qu'on est à l'Académie de Beaux-Arts, tous liés par la passion de la photographie.
L'événement a rassemblé plusieurs personnalités, dont le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, l'ambassadeur de Suisse et la représentante de l'ambassade de Belgique.
Pendant ces temps à Kinshasa, la détresse des déplacés refait surface. L'Association nationale des victimes du Congo, une organisation de la société civile, interpelle le gouvernement pour garantir des soins médicaux et des abris temporaires aux personnes ayant fui la guerre à l'est du pays et qui se trouvent actuellement dans la capitale. Cette requête a été formulée lors d'une rencontre d'échange organisée samedi par ces victimes de guerre. Selon Jospin Balougué, défenseur de droits humains, l'objectif est d'alerter les autorités sur la situation humanitaire préoccupante de ces déplacés, dont certains n'ont même pas un endroit où s'abriter. Il s'est exprimé ici au micro de Josué Kefebe.
L'Association nationale victimes du Congo, en collaboration avec d'autres organisations défenseurs des droits humains, sollicite l'intervention directe de Madame la Première ministre pour activer d'urgence et mécanisme de distribution transparente des assistances gouvernementales internationales destinées aux déplacés internes des DDH et de d'autres déplacés ici à Kinshasa. Mettre en place un comité indépendant de suivi incluant la primature, la CNDH, les organisations de la société civile et les partenaires techniques. Garantir l'accès immédiat aux vivres, soins médicaux et abris temporaires pour les populations affectées. Assurer une prise en charge psychosociale spécialisée, notamment pour les victimes de violences graves. Demander au ministre des Actions humanitaires une clarification officielle sur la stratégie nationale d'assistance aux déplacés internes, la gestion d'assurance humanitaire, avec l'appui du ministère de la Justice et de la Commission nationale des droits de l'homme, ouvrir des enquêtes approfondies sur les cas de mégestion et de détournement présumé de l'assistance humanitaire des défenseurs des droits humains et des déplacés.
Dans le territoire de Béni, la colère des commerçants monte depuis samedi. Les opérateurs économiques du centre commercial des cantines à Loya observent une grève. Cette localité située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Béni est paralysée par ces mouvements. À l'origine, l'insécurité dont ces commerçants se disent victimes et la multiplication des taxes. Le chef de la localité appelle au calme et au dialogue. Marc Marofimbo pour des précisions.
Réunis dans une assemblée générale ce samedi 29 novembre, une centaine d'opérateurs économiques de la région de Katin Aloya ont décrété une grève illimitée. Ils affirment que c'est pour décrier la sécurité dont ils sont victimes. Selon le président de la Fédération des entreprises du Congo, antenne locale, au moins 25 maisons commerciales ont été cambriolées et leurs marchandises volées dans cette région depuis juin dernier. À cela s'ajoute la multiplication des taxes qui freinent l'activité économique et assombrit le climat des affaires. La société civile locale approuve cette grève des opérateurs économiques. En revanche, le chef de la localité de Katin Aloya appelle, lui, ces derniers au calme et à reprendre les activités en attendant que la hiérarchie s'imprègne de la situation. Pendant ce temps, la crainte est grande au sein de la population qui estime que cette grève impactera négativement son quotidien dans cette zone à vocation agricole et minière. Elle estime urgente une intervention des autorités compétentes pour trouver une issue heureuse à la situation. Signalons que le centre commercial de Katin Aloya est au carrefour des grands centres urbains tels que Butembo, Mabala, Komangina et une partie du territoire de Mambasa en Ituri. Beni, Marc Marufimbo, Radio Kapi.
Quand la pluie devient synonyme de famine, au Nord Kivu, des fortes précipitations ont ravagé les récoltes de nombreux agriculteurs dans le territoire de Massissi. Des cultures essentielles comme le maïs, le manioc et le haricot ont été détruites, notamment dans des groupements des Biiri, Bafuna, Buabo et Banyungu. Cette catastrophe aggrave une crise alimentaire déjà alarmante dans la région. Pour limiter les dégâts, des ingénieurs agronomes sensibilisent les habitants à des techniques permettant de réduire l'impact des érosions sur leurs champs. Le point avec Rosalie Zawadi.
C'est avec des regards d'impuissance que les agriculteurs de Massissi font les constats des destructions de leurs champs alors qu'ils s'apprêtaient à récolter. Certains ont vu leurs cultures submergées par l'eau, d'autres les ont vues emportées par l'érosion, comme en témoignent ces deux agriculteurs.
Il y a beaucoup de pluie et l'eau venue de la route a noyé mes récoltes. J'ai cultivé les maïs, les haricots et les pommes de terre. J'ai tout perdu. C'est l'agriculture qui nous soutenait. Maintenant, nous n'avons plus rien. Ici, chez nous, la pluie a causé beaucoup de problèmes dans nos champs. Les maniocs, les haricots, tout est détruit. Les maniocs est perdu dans la terre. Donc, après cette période de pluie, nous serons obligés de tout reprendre.
Parfait, Baibika Mouema, ingénieur agronome dans ces territoires, propose des stratégies de lutte contre ces érosions qui ravagent les champs. Il demande aux agriculteurs d'espacer suffisamment les cultures lors de la plantation et de réaliser des courbes et des niveaux et des canaux dans leurs champs. Des techniques simples qui vont permettre de ralentir les ruissellements de l'eau et de réduire considérablement les dégâts. Goma, Rosalie Zawadi. Radio Kapi.
Le Fonds social mise sur la jeunesse pour transformer l'agriculture. Il invite les jeunes à rejoindre le programme d'appui à la gouvernance et à la transformation agricole. Une délégation conjointe de ce service a rencontré vendredi séparément les membres de la société civile ainsi que ceux de conseil urbain et provincial de la jeunesse à la Caritas Développement et au siège du conseil provincial. Objectif, leur présenter les avantages et les critères des sélections pour intégrer ce programme. Nous sommes dans la province de la Tchopo. Les explications avec Jacques Moukonkole.
Ce programme concerne les jeunes âgés de 18 à 39 ans, tous sexes confondus, intéressés par l'agriculture. Selon les membres de cette délégation, en l'initiant, le chef de l'État aimerait le développement des compétences des jeunes en vue de les orienter vers les différentes chaînes de valeur sélectionnées, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation. André Okou, chargé de l'entrepreneuriat au Fonds social de la République.
Ce projet, non seulement doit former les jeunes au métier, mais en plus, va leur permettre, pour ceux qui le veulent, d'avoir une incubation dans les CPJAB. Et le troisième volet sera un accès au financement. Mais la formation va être très pratique.
Les jeunes accueillent favorablement ce message et promettent leur implication. Témoignage de Perino Ebondo, président du conseil urbain de la jeunesse.
Nous verrons à ce que la jeunesse de la Tchopo puisse bénéficier, non seulement bénéficier, mais également prendre en considération et appuyer la réussite de ce projet.
Même avis du côté du président intérimaire du conseil provincial de la jeunesse, Willy Lipasso dit pouvoir veiller aux intérêts de tous les jeunes de la Djopo. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Ce projet sera implanté en janvier prochain, juste le temps pour le moment de remplir certains préalables nécessaires pour sa réussite. La calbaire, la pêche illégale menace la vie sous l'eau. En Ituri, le nombre de pêcheurs clandestins utilisant des filets prohibés ne cesse d'augmenter. Dans le camp de pêche du lac Albert, l'association des pêcheurs tire la sonnette d'alarme et dénonce la léthargie de services spécialisés censés réglementer la pêche. Conséquence, le poisson se raréfie et le prix flambe, poussant de nombreux commerçants à s'approvisionner en Ouganda pour répondre à la demande locale. Isaac Remoyope pour les détails.
Le lac Albert est aujourd'hui saturé des filets, pour la plupart prohibés, qui empêchent la croissance normale des poissons. Parmi eux, des moustiquaires et d'autres filets à maille inférieure à 3,5 cm. Ces outils de pêche, pourtant interdits, détruisent l'écosystème en capturant même les alevins. Ils sont étalés aux vies et aussi des services compétents, déplore l'association des pêcheurs. À ces pratiques s'ajoutent d'autres méthodes illicites. L'usage des lumières, parfois alimentées par des panneaux solaires, pour attirer les insectes et donc les poissons, ou encore les battements de l'eau pour les effrayer et les piéger. Résultat, la production chute fortement. Les poissons deviennent rares sur les lacs Albert et le prix flambe dans les marchés. Selon l'association des pêcheurs, la plupart des pirogues reviennent presque vides, parfois avec à peine 20 kg de poissons, insuffisants pour couvrir les dépenses. Beaucoup de pêcheurs abandonnent ainsi leur métier. Face à cette pénurie, les acheteurs se tournent vers les lacs Victoria en Ouganda pour alimenter les grandes agglomérations de l'Ituri. L'association des pêcheurs appelle le gouvernement à appliquer strictement la réglementation afin de sauver ces lacs, jadis l'un des plus poissonnés au monde. Pour l'heure, nous n'avons pas encore obtenu la réaction des autorités compétentes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le bilan des inondations catastrophiques qui frappent l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Sri Lanka ne cessent de s'alourdir. Ce dimanche, les autorités ont annoncé 818 morts et plusieurs centaines de disparus. Ces pluies diluviennes ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain, engloutissant des villages entiers et détruisant des infrastructures vitales. Des milliers de familles ont été contraintes de fuir leurs maisons tandis que les routes restent impraticables. Dans plusieurs régions, les équipes de secours s'activent pour dégager les débris, rétablir les voies de communication et retrouver les personnes portées disparues. Le gouvernement local appelle à la solidarité internationale pour faire face à cette catastrophe humanitaire qui menace également les récoltes et l'approvisionnement en eau potable.
L'invité.
Transparence sur le fonds d'indemnisation. L'archidiocèse de Kisangani a organisé une séance de restitution sur l'utilisation des fonds d'indemnisation collective reçus du FIVAO. Cette rencontre animée par le comité de gestion mis en place par Monseigneur l'archevêque et dirigée par l'évêque auxiliaire Monseigneur Léonard Njadi Njate s'est tenue samedi dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame du Très-Saint Rosaire. Pour en savoir plus, nous recevons Mgr Léonard Njadi Njate. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Mgr Léonard Njadi Njate, bonjour.
Bonjour.
Mgr, vous venez de procéder à l'exercice de redevabilité concernant les fonds reçus du FIVAO. Pouvez-vous nous rappeler les montants reçus et les modalités d'octroi?
Merci beaucoup pour la question. Le montant que l'archidiocèse a reçu est à la hauteur de 2 500 000 dollars. Et c'est la première tranche que FIVAO a accordée à l'archidiocèse de Kisangani, qui a été une victime emblématique de la guerre de six jours.
Quand vous parlez de la première tranche, c'est qu'il y a une deuxième ou une troisième encore attendue du FIVAO?
Les dommages causés à l'église catholique de Kisangani ont été évalués autour de 4 millions. Voilà pourquoi ce que nous avons reçu a été une première enveloppe et donc nous attendons la deuxième enveloppe.
Monseigneur, comment ces fonds ont-ils été utilisés concrètement sur le terrain?
Sur le terrain, nous avons d'abord élaboré la liste de bénéficiaires. Et parmi les bénéficiaires, il y a l'archidiocèse comme entité et sa structure. Il y a des écoles, il y a des établissements sanitaires, il y a les communautés, les congrégations religieuses, il y a les maisons de formation à la vie religieuse et sacerdotale. L'utilisation des fonds, pour répondre directement à votre question, avait été orientée soit pour les constructions nouvelles dans les communautés, les sites qui ont été touchés, soit pour pour la réhabilitation de certains bâtiments, soit comme compensation. C'est-à-dire ceux qui, après la guerre des six jours, avaient déjà procédé à la réparation, à la réhabilitation de la structure, ceux-là ont reçu leur enveloppe en compensation à ce qu'ils ont dépensé.
Alors, quelles sont les difficultés que vous avez enregistrées pendant ce temps, pendant la construction ou la réhabilitation?
Pendant ces temps, nous avons enregistré des difficultés, entre autres l'incompréhension sur la destination même de ce fonds. Il y a eu l'incompréhension dans le sens où certains fidèles pensaient qu'ils doivent recevoir chacun une enveloppe. Alors nous avons pris le temps d'expliquer qu'il s'agit d'une indemnisation collective qui porte sur le bien commun. Et avec le temps, on a éclairé cette incompréhension. La deuxième difficulté a été la montée du prix des ciments au marché. Et cela a causé un retard dans l'exécution de certains travaux. La troisième difficulté a été le fait que certaines entreprises avaient les comptes, non pas de l'entreprise, les comptes bancaires, mais du responsable de l'entreprise.
Est-ce que des mécanismes de suivi ou de transparence ont été mis en place pour assurer la population?
Effectivement, les mécanismes de suivi et de transparence ont été mis en place, d'abord par les contrôles internes, contrôles administratifs et financiers, mais aussi contrôles techniques par le bureau d'expertise immobilière. Il y a eu cette vérification auprès de chaque entité de son travail. Et donc cela a permis au niveau interne d'avoir un mécanisme de suivi de rigueur et de transparence. Et au niveau externe, nous avons reçu à deux reprises la visite des inspecteurs généraux aux finances et la visite aussi de l'équipe de Frivao ici au niveau local.
Quelle a été leur appréciation?
Leur appréciation a été positive à l'égard de l'archidiocèse. Ils ont apprécié la qualité du travail qui a été fait, la rigueur dans l'exécution de ces travaux, mais aussi le respect des normes de la gestion telles que la loi le demande, y compris au niveau aussi de l'Église.
Un mot de la fin, Monseigneur.
Le mot de la fin que je dirais est que l'exercice que nous venons de faire n'est pas habituel dans notre culture, dans notre tradition, mais il est nécessaire aujourd'hui pour mériter à la fois la confiance des donateurs, pour ouvrir les portes au financement que nous pouvons recevoir, mais aussi nécessaire pour la crédibilité des institutions. Et donc, si nous entrons dans ce dynamisme, nous pouvons développer notre pays, le Congo. Le dynamisme qui consiste à rendre compte de ce que nous avons reçu comme somme d'argent.
Monseigneur Léonard Ndjadindjaté, merci.
Merci à vous et bon travail.
Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjaté nous parlait de la restitution des fonds d'indemnisation collective reçus du Frivao par l'archidiocèse de Kisangani. C'était hier samedi dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame du Très-Haut Saint-Rosaire. Notre invité répondait aux questions de Jacques Mukongole. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition.